Radio Capi.
Oh, Capi. Le journal, présenté par Gisèle Cage.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver nombreux à l'écoute de votre journal sur Radio Capi. Voici le principal titre qui marque l'actualité. Jean-Pierre Lacroix échange avec l'opposition congolaise à Kinshasa. En visite officielle en RDC, le responsable onusien a rencontré plusieurs figures de l'opposition, dont Martin Fayulu et Jean-Marc Kabound, pour discuter des tensions régionales et des défis politiques internes. Les opposants plaident pour un double dialogue entre Congolais et entre la RDC et ses voisins, notamment l'Ouganda. Droits humains, 535 violations recensées en juillet selon le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Il appelle les autorités congolaises à agir, notamment en poursuivant les auteurs présumés de ces atteintes. Invité du journal, Maître Paul Okito, sur le procès de Constant Mutamba. Le collectif d'avocats réagit au verdict de la Cour de cassation et soulève des préoccupations sur la régularité de la procédure. Une interview exclusive à suivre avec Blaise Ndongala Mayanda. Ce journal s'ouvre sur une alerte sanitaire majeure. L'épidémie d'Ebola refait surface en RDC. Le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba, a officiellement déclaré ce jeudi la 16e épidémie de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. La souche identifiée est celle de Zaïre et l'épidémie touche la zone de santé de Boulapé dans la province du Kasaï. Selon le bilan provisoire, 28 cas suspects ont été recensés, dont 15 décès, parmi lesquels 4 agents de santé, soit un taux de létalité estimé à 57%. Le gouvernement a activé les centres des opérations d'urgence de santé publique, déployé des équipes d'intervention rapide et mis en place des centres de triage et d'isolement. Le ministre appelle la population au calme. Écoutons le docteur Roger Kamba dans cet extrait proposé par Poli Mousalia.
Le diagnostic sur les 6 échantillons que nous avons reçus, 5 étaient positifs à Ebola de souche Zaïre. C'est ainsi que cela nous permet d'adapter notre réponse à cette maladie. Cette réponse qui consiste d'abord à la surveillance de tous les cas contacts qui ont été directement ou indirectement en contact avec les malades ou les décès. Deuxièmement, à administrer le vaccin, parce que heureusement pour la souche Zaïre, nous avons un vaccin, et pour les malades, la prise en charge immédiate de leurs symptômes, mais aussi nous avons en l'occurrence un traitement spécifique. Et nous demandons à la population, bien entendu, de rester calme, parce que vous savez que nous avons une grosse expérience de la gestion d'Ebola. Nous sommes, comme je l'ai dit, à la 16e épidémie de cette maladie.
C'était donc le docteur Roger Kamba dans cet extrait proposé par Poli Mousalia. Diplomatie et dialogue politique, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a entamé ce jeudi une série de consultations à Kinshasa. Il s'est entretenu avec plusieurs leaders de l'opposition congolaise autour des questions clés, notamment le processus de paix de Washington et de Doha, ainsi que la situation politique interne en République démocratique du Congo. Parmi les personnalités présentes figurait Dominique Munongo du parti de Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Jean-Marc Kabound et Franklin Tchamala, secrétaire général du parti d'Augustin Matata Ponyo. Askan Zibia et Alain Irung les ont rencontrés à la sortie de cette réunion. Voici leur reportage.
Selon l'opposant Martin Fayulu, plusieurs sujets ont été abordés avec Jean-Pierre Lacroix. Il s'agit entre autres du dialogue global et inclusif et de l'application effective de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Martin Fayulu.
Il faut d'abord appliquer cette résolution, parce que cette résolution demande au Rwanda d'arrêter tout soutien au M23 et à l'Alliance Fleuve Congo. Et deuxièmement, on demande au M23 et à l'Alliance Fleuve Congo de quitter toutes les localités qu'ils occupent depuis un temps.
Concernant le prochain mandat de la MONUSCO, l'opposition propose un mandat robuste de rétablissement de la paix et non plus de maintien de la paix, martèle Martin Fayoulou. L'opposant Jean-Marc Kabounde et son regroupement politique ont quant à eux proposé un dialogue à deux niveaux.
Un dialogue au niveau international qui devait concerner la République démocratique du Congo et le pays voisin impliqué dans tout ce qui se passe à l'Est. Et finalement un dialogue interne, un dialogue inclusif.
Selon Jean-Marc Kabounde, à ce dialogue inclusif doivent participer tous les Congolais en exil, dont Joseph Kabila, Corneille Nanga, Moïse Katumbi, Matata Ponyo et Franck Diongo.
Poursuivons ce journal alors que la province du Haut-Katanga traverse une crise institutionnelle persistante autour de la gestion du gouvernorat et de la mairie de Lubumbashi. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, de la sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières, Jacques Machabani, a rencontré ce mercredi le caucus des députés nationaux de la province. Objectif, désamorcer les tensions et restaurer la stabilité. À l'issue de cette réunion, Serge Kondé, président du caucus, a souligné l'importance de cette démarche. Il s'agit de trouver une solution pacifique pour garantir la stabilité de notre province, a-t-il déclaré à Grace Amzati.
Notre rencontre a été basée sur deux préoccupations, comme vous le savez. Dans notre province, le Haut-Katanga, il y a la problématique du gouvernorat et de la mairie de la ville de Lubumbashi. Nous avons échangé avec l'autorité parce que la population voudrait savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Le quid de l'absence de l'autorité à la tête de la province et tout ce qu'il y a comme désordre au niveau de la mairie de Lubumbashi. Et nous avons été mandatés par la population qui nous a élus. Et voilà la raison de notre présence ici au ministère de l'Intérieur. Les deux dossiers sont en cours de traitement et le VPM nous a promis, bientôt les services vont arriver à terme de toutes ces deux résolutions et la paix va reprendre et la population va retrouver sa quiétude qu'elle attend. Donc nous sommes là pour l'accompagner. Le VPM a sollicité notre accompagnement. Nous avons aussi sollicité le rencontrer pour avoir des éléments avant de l'accompagner. Et nous allons l'accompagner jusqu'à ce que notre population retrouve cette tranquillité tant attendue.
Et puis dans ce journal également, Nord Kivu, le chef traditionnel de l'espace Grand Kivu tire la sonnette d'alarme. La rébellion de l'AFC M23 menace sérieusement la stabilité du pouvoir coutumier avec un risque accru d'implosion, des conflits et des ruptures de la cohésion sociale. Lors d'un récent échange consacré au processus de paix en cours, ces autorités coutumières appuyées par plusieurs acteurs locaux ont dénoncé le remplacement arbitraire des chefs traditionnels ainsi que la création de nouvelles entités administratives par les rebelles. Une démarche qu'ils jugent illégitime et potentiellement dangereuse pour l'équilibre communautaire. Face à cette situation, le chef traditionnel appelle à une prise en compte urgente de cette problématique dont le pourparler de paix en cours, craignant des conséquences graves dans les jours à venir. Les explications de Stanislas Diomi.
Plusieurs sources locales confirment ces constats dans les trois territoires occupés dont Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. Tous les chefs coutumiers qui sont en déplacement suite à la guerre sont automatiquement remplacés par ceux d'obédience au M23 ou des usurpateurs qui étaient en conflit avec le pouvoir coutumier. Nos sources affirment que certains chefs coutumiers ont été contraints de suivre une formation politico-militaire de la rébellion, mais cela n'a pas empêché que ces derniers soient écartés ou permutés. Dans le Masisi par exemple, nos sources évoquent le cas de la chefferie des Bachali. Là-bas, le chef de chefferie légitime, Roger Bachali, est déjà remplacé par son rival, qui était également son cousin, alors qu'un litige du pouvoir les oppose au niveau de la commission de règlement des conflits coutumiers. Toujours dans le Masisi, l'AFC M23 a transformé certaines entités coutumières en des nouvelles sites, notamment Sake, Ngungu, Rubaya et Bweremana, pour ne citer que celles-là. En territoire des Nyiragongo, le M23 a remplacé 5 chefs de groupement sur les sites que compte ce territoire. Des notables et acteurs locaux sociopolitiques expriment des vives craintes et demandent au gouvernement de prendre des mesures avant l'explosion de la situation.
Sud Kivu, la rébellion de l'AFC M23 poursuit l'installation de son appareil administratif dans les zones qu'elle contrôle au Nord Kivu et au Sud Kivu. À Bukavu et à Goma, des centaines de policiers ont été déployés récemment en remplacement des militaires du M23. Ces forces sont composées de nouvelles recrues formées dans des centres spécifiques ainsi que d'anciens éléments équipements de la police nationale congolaise recyclés par le mouvement rebelle. À Bukavu, le gouverneur désigné par la rébellion, Patrick Boussou, a présenté le nouveau responsable de cette police locale et a annoncé la relance des services administratifs avec la réouverture des certaines divisions provinciales. Il a également modifié les horaires de fermeture du poste frontalier des Ruzizi premier, désormais fixé à 20h, dans le but de faciliter les échanges transfrontaliers. Si certains habitants saluent une amélioration de la sécurité, de voix s'élèvent pour dénoncer une violation des accords de Doha et Washington et expriment leur inquiétude face à cette consolidation du pouvoir rebelle. René Lintimbonera nous en dit plus.
Des centaines de policiers ont été déployés depuis plus d'une semaine à Goma pour remplacer les militaires de la rébellion du M23 à Bukavu. Les autorités de facto ont procédé mardi au même exercice. Ces responsables sont allés plus loin en annonçant un nouvel horaire de fermeture frontière entre la RDC et le Rwanda. Pour Amos Bissimwa, habitant de Bukavu, peu importe les mesures prises, l'essentiel est de constater une amélioration de la situation sur le terrain.
Nous pensons qu'elle va devoir mettre fin à cette justice populaire qui y a longtemps régné depuis l'arrivée de l'AFC M23 dans la ville de Bukavu. Nous appelons la police à travailler pour l'intérêt de la population. On ne veut plus voir cette police-là qui sera en train de tracasser la population.
De son côté, Espoir Aspirine, activiste des droits humains, qualifie ces initiatives de violations flagrantes des accords signés à Doha et Washington.
À l'État congolais de faire tout ce qu'il faut afin que nos compatriotes qui sont dans la zone occupée par les M23 puissent encore une fois revivre la paix. Et nous profitons également de vos micros pour interpeller les M23 et comprendre que c'est révolu. La façon de vouloir gouverner par les armes, c'est révolu.
Ce déploiement de la police du M23 intervient alors que l'insécurité reste préoccupante dans la ville de Bukavu et ses environs.
Autre fait marquant de ce jeudi, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo a rendu public ce jeudi son rapport pour le mois de juillet. Le document fait état de 535 violations et atteintes aux droits humains recensées à travers le pays. Ces données sont régulièrement transmises aux autorités compétentes afin qu'elles prennent les mesures nécessaires, notamment en poursuivant en justice les auteurs présumés de ces actes. Richard Junior Kamunga a consulté ces rapports et nous en propose une synthèse.
Pour le mois de juillet 2025, le Bureau conjoint aux droits de l'homme a recensé 535 violations et atteintes aux droits humains, soit une hausse de 6% par rapport au mois de juin où il y avait 506 violations et atteintes. Au moins 87% des violations et atteintes ont été enregistrées dans les zones touchées par les conflits armés, les provinces du Nord Kivu, 288 cas, du Sud Kivu, 118 cas et de l'Ituri, 56 cas étant les plus affectés. La majorité de ces violations et atteintes de 72% sont imputables aux membres des groupes armés, notamment les M23, 234 cas, les éléments Wazalendo, 48 cas, les agents de l'État, principalement les militaires des FARDC, 70 cas, et les agents de la police nationale congolaise, 48 cas. Quant aux violations sexuelles, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté au moins 34 cas liés au conflit affectant 69 femmes. Cela représente une augmentation de 38% par rapport au mois précédent. En matière de lutte contre l'impunité, 151 poursuites judiciaires à l'encontre de 20 militaires FARDC, 3 agents de la police nationale congolaise et 6 civils ont donné lieu à des condamnations pour des infractions de violations et atteintes aux droits humains par les juridictions militaires.
Éducation dans la commune de Ngiringiri, ici à Kinshasa. Plusieurs établissements scolaires situés le long de l'avenue du même nom font face à une situation préoccupante. Des restaurants, terrasses et garages se sont installés tout au long des clôtures depuis l'avenue Chaba jusqu'à la Ringunza. Résultat, les élèves sont exposés à des nuisances sonores permanentes et certains établissements voient leur environnement éducatif détourné par des activités inappropriées. Un reportage signé Rachel Calombé.
Sur place, les passants sont attirés par une forte sonorisation de la musique et des bruits d'instruments et d'autres matériaux de garage. Ces terrasses et restaurants se situent le long des murs des écoles et le garage, lui, est construit à l'intérieur même de la clôture. Mier y côtoie 6 écoles dans l'enceinte de la parcelle. Tous les amateurs des bars et autres y trouvent leur compte car ces écoles se transforment en hôtel la nuit et en lieu d'aisance. Les parents condamnent évidemment ces actes. Ils indiquent que toutes ces activités détruisent favorise non seulement les côtés éducationnels des élèves, mais aussi sanitaires. À ce sujet, il lance un SOS au ministère de l'Éducation afin de prendre des mesures adéquates pour éviter tout dérapage qui empêcherait les enfants à étudier dans de bonnes conditions. Avez-vous déjà vu dans une école on construit des terrasses et des garages? À l'entrée de ces écoles, on a même supprimé les écrits qui identifient l'école pour construire une terrasse. Les enfants vont étudier dans quelles conditions?
Je demande au ministre de passer. On a fait des boutiques, les gens dorment là-bas, il n'y a pas de toilettes. En l'intérieur, il y a les garages, on a creusé des trous pour jeter les saletés, les matières fécales.
Nous avons tenté d'avoir le préfet de ces écoles en vain.
Province du Haut-Katanga, dans la localité de Luisha, environ 80 km de Lubumbashi, le lycée Lubusha fait face à une situation préoccupante. Selon plusieurs sources, 3 salles de classe à un dortoir sont désormais inutilisables en raison des opérations de minage menées à proximité par les sociétés Excellent et Comilou. L'impact de ces activités minières sur l'environnement scolaire suscite une vive inquiétude au sein des communautés locales qui redoute une détérioration progressive des conditions d'apprentissage. Le point avec Paulin Munanga.
Les murs de quelques bâtiments du lycée Lubusha à Luisha ont été fissurés, puis les bâtiments finalement détruits. À la base de cette situation, les secousses causées par les explosifs des entreprises qui font la découverture des sites miniers. Cela a fragilisé et fissuré les murs. Des salles de classe et un dortoir touchés sont délocalisés, indiquent des sources locales. Pour l'abbé Lucien Cantou, cela a un impact négatif sur le bon déroulement des activités scolaires. Aucune réaction pour le moment des responsables des entreprises minières mises en cause. Pour rappel, depuis plusieurs années, les activités minières des entreprises chinoises Excellent et Comilou menacent l'existence du lycée Lubusha. Cet établissement scolaire de l'église catholique existe depuis plus de 60 ans. L'option de délocaliser cette école est sur la table depuis quelques années pour permettre aux entreprises minières d'exploiter le cuivre et le cobalt à cet endroit dont les filons seraient très riches. Mais l'église catholique s'est toujours opposée à l'idée de délocaliser le lycée Lubusha. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président français Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi la création d'une force de résurgence en soutien à l'Ukraine dans le cadre d'un éventuel cessez-le-feu russo-ukrainien. Cette initiative regroupe 26 pays, principalement européens, qui se sont engagés à déployer des troupes ou à assurer une présence sur le sol, en mer et dans les airs. Macron a précisé que cette force n'a pas vocation de mener une guerre contre la Russie, mais vise à garantir la paix et à renforcer la sécurité de Kiev. Elle sera déployée dans les zones définies par la planification militaire, loin de la ligne de front. Le président a également indiqué que les États-Unis finaliseront leur soutien à cette initiative dans les prochains jours à la suite d'un échange en visioconférence avec Donald Trump. En parallèle, Macron a averti que de nouvelles sanctions seraient prises en coordination avec Washington si Moscou continue de refuser les négociations de paix.
L'invité.
Justice. Au lendemain de la condamnation de l'ancien ministre de la Justice à 3 ans de travaux forcés, le collectif de ses avocats dit prendre acte de la décision rendue par la Cour des cassations. Invité de Radio Okapi, maître Paul Okito a révélé qu'une action en inconstitutionnalité a été introduite dénonçant des irrégularités dans la procédure des mises en accusation initiée par l'Assemblée nationale à la demande du procureur général après la Cour des cassations. L'avocat critique également la rapidité de la procédure et qualifie le jugement de punitif, estimant que le droit de son client n'ont pas été pleinement respecté. Maître Paul Okito s'est confié à Blaise Dongala Mayanda. Suivez. Bonjour Maître Paul Okito.
Bonjour.
Quelles sont les dispositions prises au niveau du collectif après la condamnation de votre client Constant Mutamba à la Cour de cassation?
Nous avons pris acte de la décision qui a été rendue par la Cour de cassation. À ne pas oublier que la bonne justice évite la criminalisation de la violence. Et le président Tshisekedi lui-même a déclaré que notre justice est malade. C'est-à-dire celle-ci serait dans les capacités de rendre le bon droit. Mais quand cela ne tient, nous ne pouvons que nous plier à la décision qui a été rendue par la Cour de cassation. Et je vous informe ici que nous avons aussi introduit une action en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer sur les violations constatées en ce qui concerne la procédure de mise en accusation et d'autorisation de poursuite déclenchée par l'Assemblée nationale sur demande du procureur général de la République. Nous allons utiliser tous les moyens de droit pour sauver M. Moutamba parce que la décision qui a été rendue ne rencontrait pas les attentes de l'opinion. On dit que si les juges jugent, les citoyens doivent juger les juges. Donc dans cette affaire, les différentes peines prononcées et la rapidité à laquelle la procédure a été déclenchée entre la mise en accusation, l'instruction préparatoire par le parquet, les déroulements d'audience, on a assisté à une procédure expéditive et une décision punitive. Mais nous allons militer et nous allons continuer à user de toutes les voies de droit pour que la cause de M. Constant Moutamba soit bien jugée.
Vous ne redoutez pas de créer une tension entre institutions en allant en appel contre la procédure de l'Assemblée nationale?
Nous avons déposé une requête en inconstitutionnalité pour contester la validité de la procédure d'autorisation de poursuite et de mise en accusation parce que M. Moutamba normalement devrait présenter ses moyens de défense, ses observations devant la commission afin que celle-ci n'autorise au parquet d'engager les poursuites. C'est-à-dire l'Assemblée nationale a violé l'article 19 et aussi 61.5 je pense de la Constitution et ce qui peut entraîner et normalement l'annulation de la procédure parce que le vote n'était pas habilité secret, c'est un élevé. Nous sommes dans un état de droit, les attributs du pouvoir doivent s'exercer dans un cadre légal et que chaque institution doit agir dans la limite de ce qui est prévu par la Constitution. Si l'Assemblée nationale a violé les règlements intérieurs et aussi la Constitution, donc la Cour constitutionnelle, dans ses compétences, peut se prononcer là-dessus et dire les droits. Et si la Cour constitutionnelle fait droit à nos prétentions, aux prétentions de notre client, on peut, à ce moment-là, se représenter encore devant la Cour des cassations pour la faire en révision, parce qu'il y a des faits nouveaux qui entraînent normalement l'affirmation de la décision qui a été rendue. Donc, les combats de chacun de nous doivent être les combats menés pour que la RDC soit un état de droit. Monsieur Blaise.
Où se trouverait votre client après la condamnation?
Mon client, après la condamnation, a été escorté par les éléments de la police nationale. Il y avait un général. Il avait passé nuit à les piquines, selon les informations, parce que même les avocats n'étaient pas autorisés. Au jour où je vous parle, à l'heure là où je vous parle, il appartient aux autorités judiciaires et administratives de prendre les mesures nécessaires pour permettre à notre client d'exécuter sa peine, parce que là, il est à la disposition des autorités pénitentiaires et des autorités administratives ou politico-administratives.
Que répondez-vous aux informations qui circulent sur la toile selon lesquelles M. Constant Moutamba se trouverait dans une villa au quartier GB?
Je n'ai pas ces informations, ça peut être de la supputation parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux constituent par moment les moyens de désinformation et des intoxications. Pas, ce qui est sûr, c'est que le monsieur serait toujours à la disposition des autorités pénitentiaires.
Donc vous ne savez pas où se trouve actuellement votre client?
Je n'ai pas d'informations là-dessus.
Alors, quelles sont les leçons que vous retenez de ces procès?
La justice congolaise, le président avait déclaré qu'elle est malade, mais nous disons que la justice congolaise, elle est morte, elle est enterrée. Nous sommes dans un environnement où le banditisme judiciaire continue à gagner du terrain. C'est pourquoi nous demandons à notre président, Tshisekedi, qui a toujours milité pour l'avènement d'un état de droit, de déployer des moyens, d'afficher la bonne volonté pour relancer la réforme judiciaire nécessaire dont le pays a besoin. Nous ne pouvons pas accepter que dans un grand pays comme la RDC, et avec autant de ressources que nous avons, mais pourquoi nous croupissons dans la misère? Mais parce que la justice, elle est absente, parce qu'on dit que la justice élève la nation. Elle est l'épine dorsale de la démocratie et même la cheville ouvrière de l'état des droits. Donc les efforts des gouvernements ne pourront avoir des résultats positifs que lorsque la justice, elle est debout.
Maître Paul Okito, nous vous disons merci.
Merci à vous aussi.
Maître Paul Okito, avocat au sein du collectif défendant Constant Moutamba, qui réagissait au verdict de la Cour des cassations. Une interview réalisée par Blaise Ndongala Mayanda. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web www.radiokapi.net et nos réseaux sociaux. Très bonne soirée à toutes et à tous.